Un pas de wheel ici. Un pas de prendre la parole. Pardon. Hier, on a gagné. La Colombie a emporté le match 4-1. C'est tout. Carole, bon, alors pour les supporters de la Colombie, félicitations. Amparo, je suis très contente parce que je suis colombienne. Mais j'habite la République dominicaine depuis 30 ans. Mais au fond de mon cœur, je suis toujours colombienne. Carole, je ne sais pas qui c'est qui joue ce soir.
All right, but I'll check your FIFA. Yeah, okay.
Bon, oui. En tout cas, on va voir si on peut commencer avec les présentations ou pas. C'est une longue journée, on a un délai limité. Est-ce que Tony Holmes est là, non? Byron Holland? Il attend probablement son heure. Donc, ce qu'on va faire est de donner la parole aux personnes qui pourraient ou pas avoir des questions, des suggestions, des expériences à partager. Ce que vous voulez, particulièrement ce qui a été fait ces dernières journées. Oui, qui c'est qui veut parler? La personne ne s'identifie pas. C'était juste pour dire bonjour à Janice. Je sais qu'elle nous écoute. Carole, bien sûr. Bonjour Janice. Elle est là avec nous. On espère la revoir à la prochaine réunion, si vous allez venir aux autres réunions dans l'avenir. Donc, bien qu'elle n'est pas là ici en personne, on sait qu'elle est là de toute façon. Elle nous regarde. D'autres commentaires? Oui, Paul. Paul prend la parole. Je voulais dire simplement que c'était une très bonne réunion qu'on a eue hier avec l'équipe ESSAC. Et s'il vous plaît, c'était quelque chose qui m'intéressait. Il va y avoir une réunion avec ESSAC demain à 8h, de 8 à 9h, où ils vont communiquer les résultats de leur travail. Ils vont les divulguer avec le public pour consultation, pour qu'ils fassent des commentaires et les critiques. Bien, Carole prend la parole. C'était la réunion de ESSAC hier, de laquelle ? Paul prend la parole. C'était lorsqu'ils ont rencontré les boursiers. Carole, bien sûr, oui, fantastique. ESSAC est une unité constitutive très importante parce qu'il s'occupe de la résilience, la sécurité et la stabilité. Stabilité et sécurité, c'est le comité consultatif de journée. On voit que l'Internet est un développement, vraiment. Et ça nous ramène au DNSSEC à la région. Je sais que on a signé deux contrats entre l'ICANN et l'Égypte. Ces deux contrats qui ont été conclus pour permettre de créer de nouveaux postes de travail dans la région. Et je pense que une certaine mesure, les décisions liées à Internet comme plateforme sont importantes pour la 50e réunion publique de l'ICANN. Carole, oui, c'est vrai qu'au Moyen-Orient, on voit que l'ICANN s'engage de plus en plus dans l'économie nationale, ou en tout cas dans ces pays. Mais oui, ce n'est pas seulement sur le site web de l'ICANN, mais sur tous les autres sites web également que vous pouvez voir les événements. Je n'ai pas un iPhone moi-même, mais si vous vous rapprochez d'une unité constitutive, vous pouvez parler avec les personnes qui dirigent le groupe de travail. Et c'est ce qu'on a discuté ce matin. Vous parlez aux personnes qui sont des experts dans ces domaines, dans ces cas-là. Et c'est pourquoi des fois, on a du mal à comprendre ce qui a été discuté. Parce qu'ils ne parlent pas en vocabulaire de base. Ce n'est pas de l'ABC. Ils parlent à un niveau très spécifique. Et ils discutent l'avenir, ce qui est à venir, justement. Et donc, c'est pour cela que je vous dis de faire des connexions, de vous engager. Même si vous n'êtes pas tellement à l'aise. Si vous n'êtes pas en une position qui vous permette de donner votre avis, c'est toujours utile de toute façon de dire « je suis telle et telle personne, je suis intéressée, je viens de tel pays ». Est-ce que l'on pourrait déjeuner ensemble ou je vous invite à un café, je voudrais discuter avec vous? Il n'y a pas de problème là. Et je dis souvent aux personnes que les accords les plus importants ne sont pas faits dans une réunion, mais dans une fête ou sur une scène. Le plus important ici ne viendra probablement pas des réunions, mais de la suite des réunions, d'un petit café, un thé. Quelqu'un d'autre ? Bien. Est-ce que notre premier présentateur est là? Ah, il doit être perdu, non? Il doit être dans une autre salle. Il va nous retrouver, je suis sûre. D'autres remarques? Jesus, tu veux nous raconter ton expérience jusqu'à présent? Jesus, prends la parole. Au long de cette semaine, j'ai participé du matin jusqu'à notre séance, donc du boursier au GAC. Et c'est ma première séance dans cette première réunion, puisqu'on a demandé officiellement de rejoindre ces plénières. Et ce sont des genres de réunions gouvernementale, où l'on maintient des discussions importantes pour les représentants des gouvernements. C'est là qu'ils discutent les questions importantes, qui s'occupent du DNS ou de chaînes spécifiques importantes qui sont en train d'être discutées pendant ce moment. Et pour moi en particulier, cette réunion a été un peu... Il a été un peu difficile d'assister à d'autres séances thématiques supplémentaires parce que le GAC est une réunion en quelque sorte parallèle à la réunion de l'ICANN. Donc, dans ma recommandation à mon gouvernement, lorsque je rentrerai, je leur suggérerai de tenir compte du fait que si on va assister formellement les réunions du GAC, il nous faut avoir une autre délégation qui assiste aux différentes réunions thématiques de DNSSEC, de la GNSO, etc. Parce qu'on a également le cctld.be et il faut que l'on envoie des personnes aux réunions de deux jours de la CCNSO. C'est un commentaire particulier que je voulais faire ici parce qu'il faut tenir compte de cela pour la participation future. Karel, c'est un très très bon commentaire, tout à fait. Autrement, vous n'allez pas réussir. Les personnes ne peuvent pas aller dans toutes les réunions. Pauline, vous voulez prendre la parole? Bonjour, c'est Pauline qui parle. Hier, j'ai assisté à la réunion des Caraïbes pendant le déjeuner. J'étais surprise de voir autant de représentants de Trinité-Tobago. Vous faites un très bon travail. Et je commence à voir que Belize n'a pas autant de représentants et je pense que notre gouvernement devrait s'efforcer un peu plus pour s'engager. J'ai parlé à Miss Surita, si je ne me trompe, et j'essaierai de voir comment engager le gouvernement et les sociétés de notre pays à ces réunions pour voir qu'est-ce qui se passe et discuter avec vous. Karel, c'est vrai, vous avez raison. Il est important que vous transmettiez ce message. C'est exactement ce que Alba Daniels discute. C'est de leur dire de s'engager, pas seulement aux Caraïbes, mais dans tous les pays. Le concept de l'ICANN est d'atteindre les personnes. Ce n'est pas simplement un problème des Caraïbes. Donc, lorsque vous rentrerez chez vous, oui, faites passer le message. C'est ce qu'on fait à l'ICANN. Il faut transmettre ce qu'on fait. Il faut qu'on s'engage. Dans notre région des Caraïbes, on a un devoir très important. Pour ceux qui sont ici, on a une responsabilité, une obligation que nous avons, qui est d'assurer que le message soit transmis et que l'ICANN reçoive le message également. Vous voulez dire quelque chose dont vous voulez parler ?
Chose, merci. Donc, je suis Monsieur Lee du Sénégal. Sans être followeuse, hein, je n'étais pas boursier. Ouais, je laisse prendre le micro. Ok.
Just bear with us a second.
Oui, donnez-nous un instant.
Alright, go ahead.
Ok, donc je suis Amadou Lee, membre de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes de la République du Sénégal. Je voulais simplement vous dire que je suis très ravi et sans être followeuse, j'ai été bien accueilli dans votre groupe. Je me suis considéré comme étant nouveau, donc un followeuse virtuel. Et donc j'ai tenu à participer à vos réunions pour comprendre de quoi il s'agit. Et j'avoue que depuis trois jours, j'étais là avec vous, j'ai vraiment compris les enjeux. Et le maître mot que je retiens de cette réunion, c'est surtout local. Local au sens où tout doit partir du local et que nous devons nous organiser sur le plan local, essayer de faire de sorte que chez nous, on ait des GIE et des IGF, qu'on ait des organisations locales et sous-régionales. Et ensuite, j'ai compris que l'ICANN est là pour appuyer les gens. Non seulement pour appeler les gens, mais pour inciter les gens à participer. Comme je l'ai dit tantôt, l'Afrique sera en tout cas un endroit où on aura besoin encore de beaucoup d'adresses IP, puisque la téléphonie mobile avance grandement. On est en train de mettre en place des backbones, open access, du très haut débit partout. Donc tout ça va susciter de l'Internet dans les villages les plus reculés. Et donc on sait bien que si on parle de sécurité, comme je disais hier, même la télévision est un problème de sécurité parce qu'il y a des villages où les gens zappent, regardent la télévision sans rien, sans pouvoir filtrer ou en tout cas sans choisir. Donc si on met l'Internet en plus, avec les iPads, les smartphones, tout ça, dans des villages où les gens ne sont pas instruits, ça veut dire que le problème de la sécurité va encore se poser. Donc c'est pour vous dire que les enjeux sont énormes et donc moi j'invite et j'essaierai d'être le relais dans mon pays et en tout cas travailler avec les gens aussi qui sont au Sénégal, puisqu'aujourd'hui on a pas mal de gens, on a une délégation sénégalaise qui existe pour en tout cas essayer d'émuler tout cela au niveau de la sous-région et voir qu'est-ce qu'on peut apporter, comment on peut contribuer à l'ICANN. En tout cas je vous remercie beaucoup de votre accueil et de nous avoir en tout cas facilité l'insertion, facilité l'intégration et l'approche. Merci.
Ah oui, prends la parole. Merci beaucoup. Je trouve que c'était un très très bon commentaire et qui résume l'importance de ce que le programme des boursiers essaie de faire. Pour nous tous ici, il me semble que le point fort du programme des boursiers est l'engagement de la communauté locale. C'est un aspect qui me passionne et je voudrais vous présenter à notre collègue du Sénégal qui a la même passion que vous. Et je vois que vous-même, vous l'avez d'ailleurs. Et donc, s'il vous plaît, prenez note de tout cela. Car elle prend la parole. Merci beaucoup des commentaires et des questions, mais on a l'honneur d'avoir M. Tony Holmes ici, de l'unité constitutive des fournisseurs de services Internet, et s'excuse d'être un peu en retard, mais on l'excuse, parce qu'on est gentil. Alors, Mr. Holmes, vous avez la parole.
My pleasure to be here.
Bonjour, c'est un plaisir pour moi d'être ici. Je m'excuse d'être arrivé en retard. Hein. Bien, c'est toujours un plaisir de parler devant un groupe de boursiers. Et je pense que la plupart d'entre vous vont comprendre la façon dont fonctionne cet immense écosystème de l'Internet. Donc l'unité constitutive des fournisseurs d'Internet est la première unité constitutive qui a été créée dans l'infrastructure de l'ICANN, dans l'écosystème de l'ICANN dès le début. Et nous nous considérons d'une certaine façon comme un groupe un peu différent des autres groupes au sein de l'ICANN, parce que ce que fait l'ICANN a un impact sur notre activité, mais d'une certaine façon en aval. Donc nous essayons de prendre les choses différemment. Hein. Et l'Internet, hein, et finalement, au sein de l'Internet, nous sommes dans une position primaire. Hein. Donc, nous travaillons avec les unités constitutives commerciales dont je vais vous parler, dont vous allez entendre parler aujourd'hui. Nous travaillons aussi avec les unités constitutives de propriété intellectuelle. Nous n'avons pas de relation contractuelle avec l'ICANN, mais nous avons une relation commerciale avec l'ICANN et nous faisons partie de ce groupe de parties prenantes, hein, de ce grand groupe. En termes d'affiliation, toute personne qui est un fournisseur d'Internet ou une personne qui donne un système de connectivité peut rentrer dans notre unité constitutive. Un des défis que nous affrontons au niveau de l'ICANN, c'est qu'il y a différentes type d'unité de fournisseurs d'Internet. Hein. Certains sont des services comme des bureaux d'enregistrement. D'autres ont aussi des liens avec les nouveaux GTLD, ont des opérations de registre aussi. Et il y a donc différentes tailles, différentes formes de fournisseurs d'Internet. Et nous considérons qu'il faut focaliser nos efforts sur les plus grandes associations de fournisseurs d'Internet. Bien, donc, par exemple, nous faisons beaucoup de sensibilisation à travers l'association de fournisseurs d'Internet, des personnes comme Eurospa, Tabacé, en Amérique du Sud. Et la raison pour laquelle nous devons faire cela, hein, c'est parce que ces personnes peuvent rentrer aussi dans l'ICANN et participer au premier niveau, bien sûr. Mais ce qui se passe ici est très important pour nous. Et la raison pour laquelle nous pensons cela, je vous ai dit que nous avions une relation assez différente. Hein, c'est parce que lorsque des changements sont faits, par exemple lorsque on introduit de nouveaux TLD, de nouveaux domaines de premier niveau, lorsqu'on lance ces domaines de premier niveau dans l'Internet, il peut y avoir des problèmes. Vous avez peut-être entendu parler des problèmes dont on parle ici, par exemple l'acceptation universelle des nouveaux domaines de premier niveau. Par conséquent, s'il y a des problèmes de ce type, s'il y a une certaine confusion pour nos clients, pour les fournisseurs de services, avec les personnes et avec lesquelles nous travaillons, nous essayons d'aider nos clients pour comprendre les problèmes, pour leur fournir des conseils. Et nous avons participé à différentes situations dans lesquelles, vu la nature de l'Internet, il y avait des difficultés. Un des exemples que je peux vous donner, c'est lorsque l'espace a été étendu il y a quelques années pour que l'on puisse utiliser des caractères au-delà des limites des caractères, 3 caractères qui existaient jusque-là. Certains systèmes n'ont pas très bien fonctionné et ce n'était pas à cause de notre espace, c'était dans beaucoup de cas à cause des gens qui avaient conçu, développé certaines applications, certains fournisseurs de logiciels n'étaient pas dans une position dans laquelle ils comprenaient suffisamment hein, pour pouvoir faire avancer, évoluer leur système et les adapter. Et donc, il y a eu des problèmes. Et les systèmes ne marchaient plus. Et lorsque les systèmes ne marchaient plus, on a commencé hein, à voir des gens qui nous posaient des questions. Pourquoi ça ne marche pas? Qu'est-ce qui se passe? Et si on n'avait pas fait beaucoup de travail de sensibilisation auprès de leurs membres, beaucoup de ces membres d'ailleurs n'avaient pas participé à ce type de cours. Mais de nouveau, je vous dirais que les choses changent. Aujourd'hui, dans l'Internet, on reconnaît que ces problèmes existent, on essaye de les aborder de différentes manières. Des fois, c'est un petit peu plus facile pour nous parce que nous avons des liens autour de la Terre avec des fournisseurs d'Internet, de services Internet. Et ce que nous n'avons pas aujourd'hui, c'est un endroit où aller pour résoudre ces problèmes qui ont un impact sur toutes ces parties. Et donc, de nouveau, je vous dirais qu'il faut nous assurer que nos membres, dans le secteur dans lequel que nous représentons, hein, que nos membres donc peuvent avoir ce type d'approche hein, corrective. Donc, tout au sein d'Internet, tous les éléments concernant la sécurité, la stabilité du réseau, sont des éléments qui nous intéressent et sur lesquels nous nous focalisons, qui sont d'une importance primordiale pour nous. Est-ce qu'il y a des personnes qui appartiennent à un fournisseur d'Internet ici? Bonjour, je suis David, je viens du Pakistan. Je voudrais connaître votre opinion sur les nouveaux GTLD, spécifiquement les IDN et les défis qu'ils vont représenter pour les fournisseurs d'Internet, parce qu'il y a eu s'il n'y a pas une certaine éducation de nos clients, on risque d'avoir des problèmes. Par exemple, pour .yahoo, hein, yahoo.com, on va avoir une série de différences qui vont provoquer des difficultés, des problèmes. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous recommandez ou que vous faites pour essayer d'atténuer ces difficultés? C'est une très bonne question, dit Tony Holmes. C'est quelque chose dont nous parlons au cours de nos réunions ici. Et nous avons donc eu une réunion avec l'unité constitutive des fournisseurs d'Internet hier. D'ailleurs, je vous invite à participer à ces réunions. Ça aurait pu être intéressant pour vous. En tout cas, les IDN sont quelque chose qui ne sont pas vraiment nouveaux. Mais les problèmes de prise de conscience, d'éducation qu'ils représentent pour faire passer le message sont des problèmes importants. Hein. Donc, je pense qu'on pourrait approfondir cette question. Hein. C'est très, très important pour nous. Donc, hier, lors de notre réunion, nous avons parlé de ce problème. Nous sommes réunis avec les personnes concernées par les variantes d'IDN. Et nous leur avons dit qu'il y avait des problèmes de politique qui existaient. Hein, il y avait des différences en fonction de la langue, en fonction de l'alphabet, hein, en fonction de la façon dont ils étaient mis en œuvre. Hein. Donc nous devons produire ou élaborer une bibliographie dans laquelle on va donc rédiger des informations. Hein. Il nous faut nous focaliser sur la source primaire des requêtes qui nous sont faites, mais comme l'Internet est global, il nous faut fournir cette information de façon à ce qu'elle soit compréhensible pour tout le monde. Donc ce problème que vous abordez ici est un problème important. Et je dois être honnête, hein, c'est le problème, hein, c'est le même problème que l'acceptation universelle. Hein. J'ai une équipe qui analyse tous les aspects de cela, de ces problèmes, hein, en fonction des expériences que nous avons eues auparavant. Mais dans un monde idéal, nous ne devrions pas, nous aurions dû commencer bien avant à travailler là-dessus. Hein, mais c'est un programme tellement vaste hein, qu'on a dû s'occuper d'autres choses. Donc maintenant, on est en train d'essayer d'affronter ce problème et on se dépêche. Hein, et on n'arrive pas vraiment à suivre le rythme. Hein, donc c'est un programme très vaste. Il faut vraiment comprendre que l'éducation et la sensibilisation sont très importantes. Hein? Donc nous essayons d'utiliser, hein, d'atteindre cet objectif à travers différents messages. Nous utilisons la publication, nous allons nous focaliser sur des conférences sur l'IDN données à la communauté en général. Nous devons vraiment éduquer les gens. L'autre question est que nous devons assister à une série de réunions en tant que groupe. Hein. On ne parle pas seulement d'ICANN et des défis hein, et des choses intéressantes que fait ICANN. Hein. Nous devons aussi garder un certain temps pour travailler avec notre équipe, savoir quels sont les problèmes, savoir ce que la communauté veut savoir. Ça nous aide beaucoup aussi parce qu'on reçoit le feedback de la communauté. Hein. Donc c'est vraiment, nous sommes dans une période de grande activité. C'est très très intéressant bien sûr aussi, mais c'est beaucoup de travail pour nous. Hein. Voilà, donc j'ai participé à ce travail. On s'ennuie pas, hein, je vous le dis. Hein. Parce que chaque étape hein, au cours de la route, il y a des changements, il y a des impacts de ces changements à tous les niveaux. Et donc, lorsqu'on rentre dans des discussions politiques, hein, je vous ai un petit peu présenté et cet environnement. Je vous ai dit qu'il y a des nouveaux défis pour nous. Hein, tout cela, il faut que ça fonctionne, mais il faut que les gens comprennent cela. Hein. Donc, voilà, le principal problème, vous avez mis le doigt dessus, hein, c'est le problème dont on a discuté hier et qui nous donne vraiment beaucoup, beaucoup de travail pour arriver à le résoudre. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions spécifiques sur différents aspects qui vous intéressent concernant les fournisseurs d'Internet? Bonjour, je suis Youssef Ahmed du Ghana. Je voudrais savoir, est-ce que votre travail est très différent des bureaux d'enregistrement? Le travail des bureaux d'enregistrement et le vôtre, quelle est la différence? Je vous ai déjà dit, dit Tony Holmes, que nos membres, les membres de notre unité constitutive, sont des bureaux d'enregistrement. Bien sûr, il y a une unité constitutive de bureaux d'enregistrement ici, présente, hein, mais je pense que nous, dans cette partie de l'ICANN, on travaille, en général, on se focalise sur la politique liée au bureau d'enregistrement. Et pour nous, c'est une série de problèmes qui sont différentes parce que pour les bureaux d'enregistrement, ils sont dans une position où ils peuvent se focaliser sur leur business, sur leur travail. Nous, dans le domaine des fournisseurs d'Internet, ils sont dans la même position que les autres. Ils peuvent être donc au niveau de la première ligne de protocole en cas de requête. Mais je dirais que de nouveau, c'est un petit peu différent. Ils sont là pour travailler au niveau technique, plutôt qu'au niveau du bureau d'enregistrement qui est plus commercial. Et c'est pour ça que nous avons une certaine flexibilité, un environnement assez flexible, parce que nous nous focalisons dans notre travail et sur un domaine légèrement différent que celui bureau d'enregistrement. C'est pour ça que c'est important que dans les unités constitutives, nous ayons une portée et globale. L'Amérique du Sud, par exemple, en Amérique du Sud, on est très solide. En Asie aussi, nous sommes très solides. En Afrique, on est un peu moins présent. Et beaucoup de travail que nous devons faire au cours des 12 mois à venir, c'est justement d'essayer de renforcer les liens avec les fournisseurs d'Internet d'Afrique. Nous ne sommes pas assez présents dans le continent de l'Afrique. Nous avons essayé d'y parvenir, mais nous n'y sommes pas arrivés. Et nous essayons de participer, de faire participer ce continent de l'Afrique, mais on a du mal. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question. Merci. Allez-y. Bien, j'ai trois petites questions à vous poser. Bien, j'ai trois questions à vous poser. Je vis en République dominicaine. Et la première question que je voulais vous faire, vous parlez de votre association en Amérique latine qui a une place importante. Je voudrais savoir si aux Caraïbes et en République dominicaine aussi, vous êtes présents et si vous participez à certains travaux là-bas. Et si vous participez aussi à ces débats, je vous pose cette question parce que nous sommes en train de créer un mécanisme, un comité national, donc qui travaille sur les questions de la gouvernance de l'Internet. Et ces thèmes, on est en train de définir notre programme avec le programme justement avec l'agenda de l'ICANN. Et lorsque l'on voit la participation de nos fournisseurs d'Internet, de services Internet, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas vraiment au courant de ce qu'est la situation. Je trouve qu'ici, en tout cas par rapport à ce qui se fait à ICANN, ces fournisseurs d'Internet n'ont pas beaucoup de connaissances. Finalement, il s'agit d'un thème de discussion qui existe au niveau mondial, mais le niveau national est très important. Pour nous, c'est très important que nos fournisseurs participent à cette discussion mondiale. Ensuite, la deuxième question que je voulais vous poser, c'était qu'est-ce que vous faites en ce qui concerne la transition pour l'IPv6 au niveau des fournisseurs? Parce que dans le cas de la République dominicaine, l'Indotel, c'est un organisme de régulation, l'Indotel essaye d'être la première institution du gouvernement et veut être prêt pour déployer l'IPv6. Et nous n'avons pas eu beaucoup d'aide au niveau de nos fournisseurs. Nos fournisseurs sont en retard par rapport à ça. Et la dernière question, et je voudrais savoir dans quelle mesure vous allez être affecté par la transition de la fonction IANA. Et je voudrais savoir si votre travail est lié aussi à la supervision de la fonction IANA ou pas. Merci. Merci beaucoup. Tony Holmes reprend la parole. Merci beaucoup pour cette question. Premier point, j'essayais de réfléchir en vous écoutant Je ne pense pas que nous ayons une relation directe avec votre pays en ce qui concerne les fournisseurs d'Internet. Je pense que nous avons une association, mais le message est peu à peu dilué. Donc, je veux bien en parler avec vous, si vous voulez. On peut échanger nos cartes. Et je pense que ce type de contact peut vous aider à développer votre espace. Hein? C'est bien, on peut toujours avoir une relation en face à face, une relation directe avec les fournisseurs d'Internet. Hein? Donc, si je peux vous aider, hein, je serai ravie de le faire. Et je vais regarder la liste de nos membres pour voir si votre pays est dans cette liste. Au niveau d'IPv6, vous avez parlé de quelque chose qui me concerne beaucoup, qui m'intéresse beaucoup. Et pendant longtemps, j'ai essayé vraiment de diffuser cela de toutes les manières possibles. Et il y a certaines parties du monde où l'on est beaucoup plus avancé dans le domaine de l'IPv6 et d'autres non. Dans la plupart des cas, en tout cas, il y a eu un encouragement, une promotion, hein, et surtout de la part des gouvernements pour aider à faire ces changements en Asie, où l'on avance très vite dans le domaine technique, hein, par exemple. Dans la plupart des situations, le gouvernement a encouragé. Hein, et je n'ai pas enregistrer ces encouragements, mais je sais que l'environnement était le bon pour donc promouvoir l'introduction d'IPv6. Il y a des choses qui stimulent ces activités. Par exemple, lorsqu'une grande partie de l'organisation, y compris les gouvernements, promeuvent le déploiement de l'IPv6 eux-mêmes. Et donc, ils s'assurent que ils vont, par exemple, fournir des équipements qui sont compatibles avec l'IPv6. C'est quelque chose qui doit être donc qui est possible. Hein? Cela fait aussi, et c'est bon pour le marché, cela développe le marché, hein? Et cela permet d'introduire rapidement l'IPv6. Donc, lorsqu'on a ce type de changement, hein, il faut donc déployer l'IPv6 à mesure que l'on introduit de nouveaux équipements et on améliore le réseau, et c'est une bonne chose. En Europe aussi, il y a des endroits où ça n'arrive pas, il faut le dire. Hein. Par exemple, le Royaume-Uni est un endroit dans lequel il y a beaucoup de discussions justement avec notre gouvernement parce qu'on essaye de créer ce climat, mais il n'existe pas. Pour une série de raisons, cela ne s'est pas passé comme on aurait voulu que ça se passe. Hein. En tout cas, on en est à une étape où il faut faire ces changements puisqu'il n'y a plus assez d'espace dans l'IPv4 et il s'agit de faciliter ce passage. Et je vois beaucoup d'endroits en Europe aussi où les fournisseurs d'Internet sont encore très réticents, hein, à adopter et veulent prolonger la vie d'IPv4 plutôt que adopter l'IPv6 et on a parfois des adresses qui sont vraiment épuisées. Donc, on a un gros problème avec ce type d'approche. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas très bien. Et cela, en tout cas, prolonge l'espace de la vie de l'IPv4, ce qui n'est pas une bonne chose. En tout cas, si vous voulez, moi, je suis tout à fait d'accord pour aller, par exemple, voir un conseil d'administration et leur dire, il nous faut faire ces changements, il nous faut déployer l'IPv6. La première question que je leur pose, c'est, hein, qu'est-ce que vous allez nous proposer, par exemple, en termes de business, hein, par exemple, dans l'espace IPv4, hein, et si on ne donne pas un certain profit, un certain intérêt aux entreprises pour qu'ils fassent ce changement, ils ne le font pas, hein, c'est une question de profit, hein. Voilà, c'est une question de retour sur investissement. Et c'est ce qui se passe justement dans cette lutte pour déployer IPv6. Hein. Mais je pense que c'est quelque chose qui devient de plus en plus important. Il faut le faire maintenant. Je pense aussi que peut-être nous avons commencé trop tôt avec l'IPv6. Lorsque c'était vraiment une décision de passer à une nouvelle technologie ou pas, ce n'était pas obligatoire. Hein. Les contraintes qui existaient au niveau de l'IPv6 n'existaient pas. Hein. Donc, on pouvait choisir IPv6, mais il n'y avait pas de contraintes. Hein, les contraintes qui existent aujourd'hui au niveau du passage, du déploiement d'IPv6. Donc c'est le changement que nous avons. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour que tout le monde soit dans un environnement avec IPv6. Et IPv4 va rester encore pendant un bon moment parmi nous. Voilà, je crois que c'était... Je reviendrai dans un petit moment pour répondre à votre dernière question. Bien, je vois que j'ai stimulé le public. Bien. Ok. Nous avons une queue. Nous ne voulons pas une queue trop longue. Donc, Martin Gouy, vous avez la parole. Merci, je suis Martin. Ma question est, est-ce que les fournisseurs et les fournisseurs d'IPv6 ont un programme ou une stratégie pour aider les nouveaux fournisseurs d'Internet à... À travailler dans des endroits lointains en Argentine, par exemple, on a, même à l'intérieur de Buenos Aires, qui est une grande ville très bien connectée, il y a des endroits où on n'a pas accès à Internet à cause des différences sociales qui peuvent exister dans certaines parties de la ville. Et donc, les fournisseurs d'Internet ne vont pas et offrir leurs services parce que, par exemple, dans les bidonvilles, on ne peut pas faire payer ces services. Donc, je voudrais savoir comment vous faites pour travailler dans les zones comme ça sous-développées. Je voudrais savoir si vous avez des programmes d'intégration, pas seulement financiers, des programmes de coopération. Par exemple, un petit fournisseur peut s'allier avec un grand fournisseur pour faire ce genre de choses. Merci. Bien. Tony Holmes reprend la parole. Je dirais qu'en tant qu'unité constitutive, nous n'avons pas cela. Nous avons la compétence de nous focaliser seulement sur une série de problèmes qui concernent notre secteur. Hein. Donc, du point de vue de l'unité constitutive, tout est lié à l'agenda ou à l'organisation de l'ICANN. Je dirais que c'est un petit peu le problème que nous avons justement dans l'Amérique du Sud. Mais il faut le faire à travers des associations nationales ou régionales. Et la seule façon de vraiment participer à cela, c'est d'organiser des séminaires, ce que nous faisons lorsque nous faisons de la sensibilisation avec la communauté locale. Hein? Donc, voilà, c'est à ce niveau-là qu'on va pouvoir affronter ce type de défi. Hein? Mais en tant qu'unité constitutive de l'ICANN, je vous dirais que non. Hein? Nous ne pouvons pas gérer ce type de choses. Il y a des endroits qui sont des gens, hein, des groupes qui sont beaucoup mieux formés pour cela que nous. Hein. Je voudrais juste compléter ma question hein, ici à la dame de la Dominicaine. La réponse que je voulais vous dire, c'est que oui, ça a un impact sur nous parce que la gamme de choses que fait la fonction IANA est petite. C'est une petite gamme, mais de choses très, très importantes. Et le fait que les changements hein, qui ont lieu au niveau de la racine passent par IANA pour le changement de protocole, par exemple. Si vous regardez ce que fait la fonction IANA, le travail principal hein, est n'est pas les noms de domaine ou les adresses IP. Le principal travail, c'est les changements de protocole. C'est le centre de la coopération hein, et avec eux. Et c'est très important ce qu'ils font. Nous allons participer au débat concernant la supervision de la fonction IANA. Et je pense que nous allons participer donc au comité de coordination. Et une des choses que nous avons trouvées, hein, qui était un défi, c'était de trouver justement un espace pour le groupe d'unité constitutive commerciale. Parce que vous avez l'unité constitutive commerciale, vous avez la propriété intellectuelle et vous avez l'espace concernant la fonction IANA. Et je pense que l'opinion de nos groupes, c'est que ces trois unités constitutives sont plus pertinentes pour nous que les autres. Nous avons encore un peu cette dispute au sein de notre unité constitutive, mais ça vous donne une idée de l'importance que cela a pour notre espace, pour notre domaine, oui, pour notre secteur. Bien. Allez-y.
Euh, Merci, Monsieur Holmes, pour votre présentation. J'aurais, si vous me le permettez, une question et un commentaire. La question. Nous avons en Tunisie un projet de décret autour de la question des fournisseurs de services Internet et de leur statut. Nous avons exigé de l'administration qu'elle lance une consultation et que nous soyons associés en tant que... Je ne me suis pas présenté. Rida Gelouz, je suis de l'Association tunisienne des technologies de l'information et de la communication. Et nous avons exigé donc d'être associés à la consultation. Qu'est-ce qu'il ressort de ce projet de décret ? C'est qu'il y a une sorte d'analogie entre les fournisseurs de services Internet et les fournisseurs d'accès Internet. Et de plus en plus, je dirais, de prédominance des fournisseurs d'accès par rapport aux fournisseurs de services, au point qu'il y a soit des alliances entre fournisseurs de services et fournisseurs d'accès, soit carrément des prises de part de capital des fournisseurs d'accès sur les fournisseurs de services, ce qui crée, à notre sens, une sorte de monopole et de déplacement du champ de prérogatives des fournisseurs de services, parce que, pour l'essentiel, les fournisseurs d'accès sont des opérateurs de télécommunications. Alors, quelle est votre opinion sur cette question ? Le commentaire, c'est concernant l'IPv6. Très souvent, et dans ce que j'ai pu entendre à droite et à gauche, concernant la migration, de la transition de l'IPv4 vers l'IPv6, la plupart des gens pensent que c'est une question de ressources, de disponibilité de ressources. Je pense très sincèrement que la chose devrait être analysée en termes de risque d'exclusion, de perte de connectivité par rapport à l'ensemble de la communauté Internet. De ce point de vue, moi, je voudrais qu'on puisse répondre à un moment donné à une question. À partir de quel moment faudra-t-il arrêter de penser IPv4 définitivement? Il y aura une période de cohabitation, mais très souvent, dans ce genre de situation, il faut décider qu'à partir de telle date, on ne fera plus de l'IPv4. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci.
Le problème des tensions qui peuvent exister entre les fournisseurs de services et les fournisseurs d'accès est un problème, hein, et que vous connaissez. D'ailleurs, vous en avez parlé dans votre déclaration. Le fait est que dans tous les environnements, hein, il est normal qu'il y ait un niveau de concurrence. À partir du moment où on a une domination dans ces secteurs par un des deux acteurs, à ce moment-là, les choses se compliquent, hein, et aucun des deux ne va pouvoir vraiment se développer correctement, hein. Donc, je pense que partout, nous sommes dans une position, les fournisseurs de services Internet, nous sommes dans une position dans laquelle nous fournissons un accès à des millions de personnes, et le point clé ici, c'est la concurrence. Il faut s'assurer que tout le monde a une compensation et que tout l'environnement facilite cela. Je pense que la chose la plus importante, hein, c'est que tout le monde puisse avoir sa place dans un environnement. Et du point de vue national, le rôle du gouvernement est de plus en plus important. Il doit faciliter ces éléments d'équilibre, hein. Et je dirais donc que si l'on n'a pas une raison, hein, de changer ce type de choses que vous avez sur le marché, et il ne faut pas le changer. Ça va peut-être, les choses vont se renforcer, mais je pense que c'est relativement normal. Voilà. Donc, ça serait le premier point. En ce qui concerne IPv4 et IPv6, je dirais que IPv4 va rester avec nous encore pendant longtemps. Il ne va pas y avoir de date à partir de laquelle on va arrêter l'utilisation d'IPv4. Ce qui va arriver, par contre, c'est que la plupart des contenus, hein, vont petit à petit passer à IPv6. Parce que on peut passer de IPv4 à IPv6, mais conserver un accès à tout ce qui est donc fourni de cette façon. Il y a certains contenus qui vont être fournis seulement en IPv6 et petit à petit, les utilisateurs de l'IPv4 vont devoir passer à l'IPv6 et donc on va acheter des routeurs, par exemple, qui vont donner ces compétences de base ou qui ne vont plus les offrir. Mais je pense qu'on a encore plusieurs décennies d'utilisation pour IPv4. Ça va être une transition lente, à mon avis. Nous n'aurons pas les mêmes tensions que nous avons aujourd'hui, parce que tout l'équipement, les infrastructures qui sont utilisées vont passer à l'IPv6 et vont devoir le faire. Il va y avoir une vaste quantité d'adresses IPv6, ce qui va permettre ce passage, qui va aider à faire cette transition. Mais je pense que ça ne va pas être quelque chose qui va être arrêté, l'IPv4 arrêté du jour au lendemain. Ça va être une évolution graduelle qui va prendre place de manière organique dans différentes parties du monde et de différentes manières aussi. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question. Merci beaucoup. Hélas, nous n'avons pas le temps de poser davantage de questions sur ce sujet en particulier. Je vous propose de contacter Tony Holmes à l'extérieur de cette réunion, et à ce moment-là, vous lui poserez des questions. Je serai ravie de répondre à toutes vos questions et n'hésitez pas à me contacter ici pendant la conférence ou envoyez-moi un mail. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai essayé de vous apporter des brochures que j'ai ici avec des éléments pour pouvoir me contacter. Et si vous avez des questions à me poser, vous pouvez le faire à travers donc ces adresses d'email. Bien, merci beaucoup Tony Holmes. Nous avons un autre intervenant qui donc va nous faire sa présentation. Rappelez-vous que nous essayons de respecter nos horaires.
All the way at the end of the table here.
Ginny Ellis prend la parole. Nous avons avec nous maintenant Byron Holland. Byron Holland, le président de l'organisation de soutien des codes de pays, organisation de soutien aux extensions géographiques, qui est venue nous parler. Brian Holland prend la parole. Comme Ginny dit, je suis le président de l'organisation de soutien des extensions géographiques, l'une des organisations de soutien de l'ICANN. Je travaille comme président de l'autorité d'enregistrement canadienne, CIRA, on est l'enregistreur de l'extension géographique du Canada. La CCNSO est la structure au sein de la CAN qui représente tous les codes de pays, toutes les extensions géographiques et tous les gérants de ces extensions qui choisissent de devenir des membres. Ce n'est pas obligatoire d'y appartenir. En ce moment, on a 150 pays qui sont représentés à la CCNSO, alors qu'il y a 193 pays. Mais on inclut également des territoires qui peuvent avoir des CCTLD. Donc on a 250 CC potentiels sur lesquels 150 appartiennent à la CCNSO. C'est ce qui porte sur le nom de domaine. C'est ce qu'il y a dans le marché. Que la CCNSO représente 95% et un peu plus même des noms de pays, des extensions géographiques dans le marché des CC. La CCNSO a été fondée en 2003 et originellement, elle faisait partie de la structure de la GNSO, mais avec les différentes organisations qui participaient, donc la CCNSO a été créée. Il est important de savoir que les codes de pays eux-mêmes ne sont pas tous uniformes. Ils ont des structures très différentes. Même de l'extérieur, on a l'air d'être similaires. Et bien sûr, on occupe des fonctions similaires. Mais pour ce qui est de la structure, on est assez différents. On a le secteur privé. On a différents
profit. Des fois, le gouvernement est celui qui s'occupe de cela. D'autres fois, le département est celui qui s'occupe. D'autres sont de genre à but lucratif. Et donc, on a des structures de gouvernance très variées. Il y a des différences significatives pour ce qui est de la taille. Et les opérateurs de registres principaux occupent différents noms de domaines. Et donc, on a une large gamme de types de styles, de structures gouvernementales, de portfolios, de portefeuilles, donc de domaines qui représentent les codes de pays. Et je le mentionne parce que cela a un impact sur la façon dont les CCNSO, dont les SO et la CCNSO en particulier s'organisent. Et la GNSO, par exemple, a la responsabilité de générer des politiques communes pour la CCNSO, pour les acteurs de la CCNSO avec les CCTLD de la CCNSO, mais diffère de la GNSO parce qu'il n'est pas vraiment fréquent que cela soit fait pour créer une politique qui puisse être importante pour nous tous. Et je dis plus ou moins parce que les opérateurs de codes de pays et des extensions géographiques en général sont plus préoccupés par leur propre extension géographique. Et on a une société qui est associée, bien sûr, à ce qu'on fait. Et donc, on a d'abord nos juridictions nationales. Et on n'est pas des parties contractantes de l'ICANN. Et certaines CC, certaines extensions pourraient avoir des contrats, mais on n'est pas des parties contractantes de l'ICANN. Et on n'est pas limité par les politiques de l'ICANN. Et je le dis parce qu'on est une création de nos juridictions nationales en premier lieu. On est responsable de nos juridictions nationales et on doit respecter ces lois des juridictions nationales. Ce qui fait que la GNSO est unique au monde de l'ICANN parce qu'on n'est pas restreint par les politiques de l'ICANN elle-même. On essaie d'être des participants constructifs du monde de l'ICANN, du discours de l'ICANN, comme organisation, et beaucoup de CC individuels sont très très actives dans le monde et l'espace de l'ICANN pour participer aux différentes activités de l'ICANN, pour faire des commentaires concernant les questions d'intérêt pour l'ICANN, comme je suis sûre vous saurez déjà, la transition Diana est une des questions importantes en ce moment. Et c'est le genre de processus auquel la CCNSO est très engagée, fait des commentaires, etc. Donc, dans l'espace de politique, en tout cas, on n'a que quelques politiques que la CCNSO a adoptées de façon uniforme partout, entre toutes ces extensions géographiques. Par exemple, l'IDN et les politiques. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? D'habitude, on se centre sur les questions de meilleures pratiques, on partage les expériences, les questions de sécurité, de mercatique, un nombre de questions opérationnelles, ça fait partie de ce qu'on fait. Mais nous nous engageons aussi de façon significative avec les questions de la CAN, en particulier parce que la fonction de Yana est hébergée dans la famille de la CAN. Et du côté du nommage, on a des processus pour les parties directement affectées, c'est les opérateurs G, les personnes qui font l'entretien de la zone racine, les opérateurs de la zone racine. Et donc, si on travaille avec les parties concernées par les fonctions Yana, Yana est d'une importance essentielle et critique pour nous, parce que les opérateurs de GTLD sont nos fournisseurs principaux. Et avec cette fonction, ce qui se passe est d'un énorme intérêt avec nous. ce qui montre que les CCI ont un grand intérêt à ce qui se passe dans l'espace de l'ICANN. En outre, il y a des organisations régionales où les membres des CCI participent aussi, qui ont des intérêts régionaux et qui offrent différentes perspectives. Et ces organisations régionales participent également à la CCNSO. Donc on n'a pas seulement 150 extensions géographiques mondiales, on a également des connaissances régionales que l'on peut intégrer à la CCNSO. Quant à notre structure, on a 3 conseillers par région. Les 5 régions de la Cannes, on a 15 conseillers élus par les régions. Leur mandat dure 3 ans. Il y a aussi 3 conseillers au NOMCOM que l'on nomme et leurs mandats sont roulants de façon à ce que l'on ait toujours des renouvellements. On cherche à avoir différentes opinions. On a 18 conseillers au total. À ce moment, moi-même, je suis le président et on a différents vice-présidents. En ce moment, on a 2 vice-présidents. Et au niveau de l'organisation, en tant que conseil, nous avons des réunions mensuelles. Des fois, on nous demande plus que cela. On a des téléconférences mensuelles. Pendant qu'on vient au rayon de la Cannes, on se réunit toute la journée, mardi et mercredi. Ce sont des réunions ouvertes pour que tout le monde puisse venir participer. Et c'est tout ce qu'on pourrait avoir, même dans cette salle. Et comme j'ai dit, les réunions sont ouvertes. Tout le monde est invité à venir. Vous pourriez choisir des questions qui sont d'intérêt pour vous. Mais comme j'ai dit, on se réunit de 9 à 5 heures. On a différentes séances en panel et les mercredis à la fin de la journée, on a toujours une de ces séances de haut niveau sur les questions les plus urgentes de la réunion de la Cannes. Et cet après-midi, nous aurons une réunion qui portera sur les questions de la transition IANA. Voilà. Alors, je vous ai expliqué notre structure, qu'est-ce qui nous intéresse, qui sont nos membres, comment on a créé notre conseil et les concepts principaux de notre travail. Alors, je suis prêt à répondre à vos questions concernant la CCNSO. Karel, avant de passer aux questions, on n'a vraiment pas de temps. On a notre présentateur suivant et il faudra qu'on laisse la salle dans très peu de temps, en 15 minutes. Donc, si vous voulez faire des questions, soyez spécifiques. Oui. Oui, de l'Indonésie prend la parole. Ma question est un peu technique, peut-être. Pourquoi les CCTLD, ou la plupart, limite l'utilisation des citoyens ou au moins ont ces problèmes au niveau du pays. C'est différent pour les GTLD qui sont ouverts pour les différents territoires. Et ma question suivante porte sur les nouveaux GTLD. Je voudrais savoir comment les extensions géographiques ou ces CTLD vont concurrencer les GTLD pour contribuer davantage au pays. Baron Holland, les CCTLD ont différentes missions que les GTLD d'habitude. Les extensions géographiques, ce n'est pas uniforme, je vous rappelle, parce que les CC et les extensions géographiques ont des manières d'agir différentes selon le pays, mais les CCTLD sont dans le pays pour fournir des services pour les organisations de chaque pays. Et par conséquent, ont des exigences de présence. Vous pouvez être des résidents permanents, des organisations liées au pays, et c'est spécifique parce que les CCTLD sont là. pour le pays, pas pour d'autres juridictions. Voilà pourquoi, d'habitude, on a des exigences de présence. Il y a des CC qui n'ont pas de telles exigences. Et on pourrait le faire pour leurs propres raisons, parce que la communauté Internet locale a décidé que c'est la voie qu'ils veulent suivre. La plupart, ce genre d'exigences sont ouvertes. Pour ce qui est de comment on va concurrencer les GTLD, je dirais que les CCTLD les plus établis, les plus importants, savent quels sont les changements à venir sur leur espace. Et la plupart parmi nous avons considéré largement comment cela va avoir un impact sur nos sociétés. Et ça nous donne un marché élargi au sein de nos propres marchés. Je peux simplement vous dire que je sais bien quel est le type d'action et de mesures que prennent mes collègues au Canada, par exemple. Et on a parlé de l'espace au G4. Ces dernières années, on a adapté notre stratégie. Et bien sûr, si vous faites des changements au fond, vous allez changer le paysage. Nous continuons à sentir et à voir beaucoup de croissance. Et on continuera de fournir notre service pour fournir de la valeur aux Canadiens et plus de valeur que la plupart des Canadiens auront vu jusqu'à présent. Karel, merci. Martin, il faudra que ta question soit absolument très, très courte, résumée, parce qu'on n'a pas le temps et la personne suivante est là. Martin, prends la parole. Est-ce que les CCTLD doivent avoir des considérations nationales pour les marques nationales ou étrangères? Et pour les organisations étrangères, dit Baron Holland. Martin prend la parole. Non, par exemple, si on a une marque commerciale étrangère qui a le même nom qu'une marque nationale, est-ce que l'on doit donner la priorité à la marque nationale? Ben Holland prend la parole, c'est une bonne question. Ça dépendrait du pays, je dirais. Je pense que mes collègues pourraient mieux répondre à cette question que moi-même. La plupart des fois, les extensions géographiques suivent un programme qui s'adapte aux politiques d'extension de nom. Nous, au Canada, on a un modèle qui est la politique de résolution de litiges canadiennes, c'est la CDRP. En tant qu'opérateur d'extension géographique, on est responsable de ce processus. Mais nous ne croyons pas qu'on doive nous juger pendant la période concernant ces questions. Donc on s'occupe de... On travaille, nous, avec la personne qui s'occupe de ces questions et qui pourrait assigner des noms de domaine et résoudre les litiges selon la question qui les occupe. Et nous, en tant qu'opérateurs d'extension géographique, on n'intervient pas à ces processus. Oui, allez-y. C'est Christina Rosette prend la parole. Je suis présidente de l'unité constitutive de propriété intellectuelle, dit Christina Rosette. Je vais prendre la parole pour discuter un peu de la CNSO et de la préférence qu'on donne aux marques commerciales lorsqu'on lancera un deuxième niveau au sein des extensions géographiques et ce système. Ce n'est pas une question qui est à voir avec les codes de pays. Maintenant, quant aux politiques de résolution de litiges, on a adopté certaines politiques entièrement pour la résolution de litiges. Et vous savez que l'un des facteurs qui semble avoir en commun sont que la personne qui dépose sa plainte par rapport à la marque commerciale doit agir dans un intérêt qui n'est pas son propre intérêt. Et donc, dans la pratique, si vous avez deux personnes qui ont des droits concurrentiel pour une même marque commerciale, il va falloir s'assurer que les intérêts de l'une des parties soient légitimes au moins. Donc on ne voit ces disputes presque jamais parce que dans ce cas, la partie plaignante, en général, perd. Et personne ne commence tant qu'il ne dépose pas de plainte pour initier un litige. Ça ne les aide pas. Martine prend la parole. Oui, mais ma préoccupation était que pour les cas des CCTLD, je ne savais pas si le CCTLD en tant qu'extension géographique était des questions d'intérêt national. Et donc, pour le cas des extensions géographiques, c'est un doute que j'ai. Je ne sais pas s'il devrait donner la priorité aux marques commerciales nationales. Pour le cas des extensions géographiques, je le demande. Et ce n'est pas une affirmation, c'est un doute. Baron Holland, bon oui, et je ne pourrais pas vous répondre en tout cas. La pratique commune dans l'industrie des non-domaines est que le premier arrivé est celui qui a le droit. Et donc c'est légitime que vous ayez ce nom parce que vous êtes arrivé d'abord. Karel Jesus. Ah, je vous ai interrompu. Baron Holland, non, c'était ça la question, la réponse. Bien dit, Karel Jesus, vous avez la parole. Jesus, c'est une question pour M. Holland. Est-ce qu'il y a, à l'heure actuelle, des paiements annuels pour les CCTLD, pour Saneriel à CCNSO? Baron Holland, c'est une bonne question. C'est une question qui nous occupe, certainement. En tant qu'entité souveraine, notre organisation fait beaucoup d'attention à cela, dans le sens qu'on ne requiert pas, on n'est pas exigé de participer à l'environnement de la CAN, ce qui diffère du cas d'autres. Mais les CC ne doivent pas, n'ont pas à participer dans l'environnement de la CAN. On fait des contributions volontaires à la CAN. On fait des contributions à la CAN, pas à la CCNSO. Donc, ce n'est pas obligatoire de participer à la CCNSO et on fait des paiements volontaires à la CAN. On encourage cela en tant que CCNSO. Nous croyons qu'il faut contribuer aux finances de la CAN. Et on a récemment conclu une période de révision de la structure de paiement et la plupart des extensions géographiques contribuent avec la CAN suivant cette structure de paiement qui est une structure qui reconnaît la taille du registre en tant qu'enregistrement fiduciaire pour voir quelle est leur capacité de paiement. Et les montants peuvent varier entre $500 par an pour les registres qui sont tout petits. Ils ont un portfolio de domaines qui est dans les milliers et ça pourrait être des centaines de milliers de dollars pour les grands registres. Karel, c'est une très bonne question, oui. Je ne savais pas s'il y avait du soutien pour les extensions géographiques qui en avaient besoin. On a une autre question de Victoria de Moldover. Victoria de Moldova prend la parole. Qui c'est qui devrait gérer la situation où le code de pays, l'extension géographique, coïncide avec le GTLD, par exemple? L'extension géographique de Moldova est .md. Et .md est également une institution médicale aux États-Unis. Donc, est-ce que la CCNSO devrait gérer ce processus? Baron Holland, non, je ne connais pas cette situation spécifique. Mais les codes de pays de deux lettres, basés sur la liste de codes de pays de l'ONU, sont spécifiques au pays. Donc, dans la racine, c'est ça qui nous définit. Êtes-vous un code de pays de l'ONU associé à un pays particulier, à un territoire particulier? Si c'est le cas, ce code sera réservé aux extensions géographiques et redélégué comme tel. C'est un domaine un peu compliqué, mais il y a un processus de délégation et de révocation. révocation des délégations et retraite des domaines de premier niveau. Typiquement, le code de pays ou l'extension géographique est délégué par l'ICANN à l'autorité pertinente dans le territoire. D'habitude, c'est le gouvernement. Et les gouvernements vont déléguer l'autorité de l'opérer à un autre type d'entité, comme j'ai dit dès le début. Voilà pourquoi certains parmi nous sommes des organisations à but lucratif. Il y en a des organisations à but non lucratif, des départements de gouvernement, la communauté Internet locale, selon le genre de gouvernement, trouvera la manière qui lui convient le plus pour opérer le code de pays et l'extension géographique. Typiquement, les gouvernements ont vendu leurs extensions géographiques ou ont un acteur privé qui les exploite à leur place. Donc, ça dépend du cas de votre pays. Des fois, l'extension géographique est un acronyme populaire de quelque chose d'autre et pourrait générer des revenus, ce qui s'est déjà passé. Particulièrement les premières extensions géographiques, avant que l'ICANN s'organise vraiment, il y a eu beaucoup de disciplines autour de ces opérations d'extension géographique. Karel, merci Byron. En premier lieu, on vous remercie tout ce que vous avez dit. Je sais qu'il y a d'autres questions. Mais on a une autre personne qui est venue faire une présentation. Alors, on remercie Byron Holland. Merci beaucoup. Et comme j'ai dit avant, la conversation peut continuer. À la fin de la séance, à la pause café, dans les couloirs, etc. Ginny Ellis prend la parole. Comme d'habitude, Janice me demande de vous rappeler tous que si vous avez des questions pour les présentateurs de cette semaine, vous pouvez lui envoyer les questions et elle les remettra au présentateur. Car elle, bien sûr, Byron, je sais que vous serez heureux de répondre à leurs questions à la fin de la réunion. Byron Holland, absolument, et je sais que Janice me remet les questions. Elle me les a fait passer dans le passé. Donc, si vous avez des questions, faites-les-moi parvenir et j'y répondrai. La plupart des questions-réponses se font dans les couloirs. Donc, venez me voir. Venez aux réunions de la CCNSO si vous voulez savoir davantage. Merci de m'avoir invité. Karel, merci Byron. On a déjà vu la synergie générée entre la CCNSO et l'unité constitutive de propriété intellectuelle, parce qu'il y a eu une question qui a été demandée par Martine pour voir s'il pourrait y avoir un conflit, si quelqu'un a une marque commerciale enregistrée qui coïncide avec un CCTLD. Je vous présente maintenant Christina Rosette, la présidente de l'unité constitutive de propriété intellectuelle, qui fera une présentation très intéressante sans doute. Christina Rosette prend la parole. Merci, bonjour. Merci de me donner cette occasion. Je suis la présidente de l'unité constitutive de la propriété intellectuelle, IPC. Au moins au sein de l'organisation de soutien aux extensions géographiques, on appartient, et la GNSO, comme vous avez probablement entendu dire, est divisée en deux chambres, celle des parties contractantes, ce sont les personnes qui ont un contrat avec l'ICANN, et les parties non contractantes, c'est la chambre des parties qui n'ont pas de contrat. Donc l'IPC est une chambre de parties non contractantes, appartient à la chambre de parties non contractantes, qui est divisée en unités constitutives, celle des utilisateurs commerciaux et des non commerciaux. On appartient donc à ce groupe avec les fournisseurs de services Internet. Je sais que vous avez vu Tony Holmes aujourd'hui. Et donc, on a une structure de groupe de parties prenantes très souple. Et les décisions principales sont prises au niveau des unités constitutives. L'unité constitutive de propriété intellectuelle est responsable de représenter les points de vue et les intérêts des différentes parties de partout dans le monde dans le domaine de politique publique pour garantir que les recommandations de politique qui sont développées par la GNSO correspondent à leurs intérêts parce qu'elles sont approuvées et remises au conseil d'administration. Notre site internet est ipconstituency.org. Vous pourrez y trouver plus d'informations, y compris concernant l'assignation. On a 3 catégories de membres. Une catégorie est celle des associations internationales. Une deuxième catégorie est celle des associations des États nationales et régionales. Et la troisième catégorie est conformée d'individus, voir s'il y a des individus ou des corporations individuelles qui participent à ce niveau. On a à peu près 120 membres, mais nous avons tellement d'associations internationales qui sont membres, comme par exemple l'Association internationale des marques commerciales, qu'elles sont considérées un seul membre de l'IPC. Mais en ce moment, par exemple, cette Association internationale des marques commerciales a 12 000 membres. Et ils ont un comité Internet très actif qui nous donne des contributions à nous en tant qu'IPC. Alors, lorsque vous le considérez à l'échelle, ils ont une représentation d'utilisation beaucoup plus large. Pour ce qui est de notre façon de travailler, on a une structure souple, fluide. Donc, s'il y a un nouveau sujet qui va être traité, qui a un impact sur les personnes qui ont des droits intellectuels, il n'est nécessaire que de le publier sur notre liste et de demander aux personnes de le considérer. De même, si on a un document qui est publié pour consultation publique, et qu'un membre trouve que l'IPC devrait y faire des commentaires, ils doivent simplement exprimer que c'est leur avis. Et il y a des bénévoles d'une structure de comité très souple pour rédiger un document qui est publié sur notre liste pour consultation publique et qui est présenté à l'ICANN par la suite. Maintenant, quant aux questions qui nous préoccupent le plus en ce moment, je sais que vous avez probablement compris que la communauté complète est préoccupée par la transition de la supervision IANA et par la responsabilité de l'ICANN. Ce sont des domaines d'intérêt pour nous aussi. Mais au-delà de ce commentaire, nous nous centrons vraiment sur la mise en œuvre du programme des nouveaux GTLD lors de cette réunion, particulièrement pour ce qui est de la conformité. Notre unité constitutive est intéressée depuis longtemps à travailler avec le département de conformité contractuelle pour garantir que, étant donné qu'une bonne partie de la CAN est exploitée sous un contrat, il faut que ces contrats soient respectés. Donc, on s'occupe de la mise en œuvre de GTLD et des questions y associées. Donc, par exemple, hier, on a parlé avec le Conseil de la liste de collisions de noms que Tony aura peut-être mentionné. Et c'est une liste de noms de deuxième niveau que les opérateurs de registre peuvent activer pendant une période de temps donnée. La plupart incluent des marques commerciales célèbres au niveau mondial et c'est pour cela que les personnes qui sont titulaires de ces marques n'ont pas pu participer à la période préalable.
Les autres problèmes sur lesquels nous avons travaillé, c'est le WHOIS et que l'on parle maintenant service annuaire de registre. Nous n'avons pas encore de position concernant le rapport final du groupe d'experts qui est sorti il y a quelques semaines. Nous sommes en train de le lire, mais je pense que nous allons pouvoir donner notre opinion au cours des mois à venir pour vous donner un petit peu une idée de ce que nos réunions abordent. Hein. Nous réunissons avec le groupe d'unité constitutive de commerciale. Hein. Nos réunions avec le CSG sont destinées à préparer les réunions ensuite que nous avons avec le Conseil. Hier, lors de notre réunion avec notre unité constitutive, qui sont toujours ouvertes, nous avons reçu des présentations du département de conformité, du personnel de l'ICANN qui s'occupe de la révision de la GNSO et les opérateurs de la marque de clearinghouse. Donc nous discutons, il y a une session qui va avoir lieu ce matin d'ailleurs, concernant le groupe de candidats pour les nouveaux GTLD, que faut-il avoir pour pouvoir gérer un nouveau GTLD, etc. Ce type de choses. Donc, je vais participer à cette réunion. Et ce que nous avons fait, nous avons discuté quels sont les points à aborder, quelles sont les positions à prendre. Et nous avons parlé d'un programme de sensibilisation pour les membres. Nous avons 3 membres qui sont responsables d'identifier des potentiels, des nouveaux membres potentiels en Asie, en Amérique latine, en Afrique, et des catégories de membres de façon à ce que les associations soient touchées pour qu'on ait une plus large base de personnes intéressées parce que leurs propres représentants pourront nous permettre de toucher davantage de membres aussi. Nous avons donner certains conseils aux membres qui travaillent dans notre groupe de dans nos groupes de travail. Nous avons donné aussi des conseils aux des recommandations aux différents comités. Hein. Nous parlons des motions qui vont être abordées et nous essayons aussi de parler de la transparence d'ICANN. Voilà, c'est une façon, une idée hein, d'un petit peu des thèmes dont nous parlons lorsque nous avons nos réunions. Nous avons une réunion mensuelle, une téléconférence pour tous nos membres et pour les mois où nous ne nous réunissons pas lors de l'Assemblée générale de l'ICANN. Voilà. Si vous avez des questions à poser, je suis à votre disposition. Merci, Christine. Nous allons commencer par la droite. Allez-y. Bien, je suis Dusan de Serbie. J'ai participé hier, j'ai assisté à la réunion de l'unité constitutive de la propriété intellectuelle. C'était très intéressant. Je voudrais en savoir un petit peu plus sur l'opposition qui existe entre l'introduction des nouveaux GTLD. On connaît tous la décision finale de l'ICANN. Et puisque l'organisation de la propriété intellectuelle était contre l'introduction de nouveaux GTLD, je me demande si les constitutions de propriété intellectuelle et l'unité constitutive de la propriété intellectuelle étaient à l'époque en faveur ou contre. Quel est le problème interne avec ICANN lorsque cette décision était prise? Merci. C'est une, je dirais que les deux, hein, dit Christina Rosette, parce que nous soutenons l'introduction des noms de domaine des GTLD internationalisés, mais nous sommes préoccupés et nous ne soutenons pas le lancement en grande échelle de nouveaux GTLD non IDN. Nous sommes très préoccupés par les potentiels que cela peut présenter pour le cyber-squattage et le cyber-délit. Et donc, voilà, nous avons ces craintes-là et nous avons participé, nous avons essayé d'aider et de donner certaines recommandations pour la mise en œuvre de ce type de système. Donc, nous avons encore des préoccupations dans ce domaine. C'est une des raisons pour laquelle nous travaillons avec le secteur de la conformité, du département de la conformité, pour être sûr que les comportements et le marché des nouveaux GTLD sont en conformité avec les contrats d'ICANN et ne peuvent pas provoquer des problèmes au niveau des consommateurs. Habib de Tunisie, j'ai une question concernant le problème des listes de deuxième niveau, concernant les marques qui ne sont pas encore destinées au public, comment est-ce que vous abordez ce type de problème lorsqu'il s'agit de noms de domaine qui ne sont pas publics, qui sont dans une situation hein, vague, qui ne sont pas publics, qui appartiennent à quelqu'un? Comment est-ce que l'unité constitutive de propriété intellectuelle s'occupe de ce type de problème. Bien, si vous parlez, Christina Rosette, si vous parlez du problème que nous avons abordé tout à l'heure, je dirais qu'un des aspects dans le programme des nouveaux GTLD, c'est qu'à mesure qu'il avance dans sa mise en œuvre, il y a eu des solutions qui ont dû être mises en œuvre, qui n'avaient pas été anticipées. Et je pense que la collision de noms, cette l'idée, le problème lui-même, hein, le comité de sécurité et de stabilité en avait parlé, mais ça a été seulement Je dirais au cours de cette dernière année que cela est devenu vraiment important et qu'il fallait prendre des actions, de mettre en œuvre des actions pour régler cela. Lors de la réunion à Buenos Aires, ICANN a et donc présenté toute la liste de toutes les TLD de deuxième niveau, les chaînes qui allaient être bloquées, hein, puisque ça posait problème. Donc c'est 7 mois, hein, il y a 7 mois hein, seulement. Donc voilà, c'est la situation dans laquelle nous sommes. Une des conséquences hein, de la collision, de la liste de collision de noms qui est considérée par la communauté comme une étape importante. Hein, et donc, comment cela avait un impact dans le domaine de la propriété intellectuelle, parce qu'on a dit personne ne pourra utiliser ces noms pendant 120 jours, mais on a dépassé cette période de temps lorsque la période de Sunrise était requise. Et lorsqu'on en a parlé avec le Conseil hier, on a mentionné cela comme un problème hein, qu'il n'avait pas vraiment contemplé, qui allait affecter les décisions de l'ICANN, hein, qui avait un impact hein, sur les mécanismes de protection requis hein, de ce point de vue. Donc, nous avons donc abordé ce problème. Ils ont reconnu, hein, d'après ce que j'ai compris, et ils nous ont dit qu'ils avaient le personnel de l'ICANN qui s'en occupait et que lors du prochain forum public, on allait en parler. Alex. Bien, bonjour. Je suis Alexandra Ichukev. Je viens de Macédonie. Je suis un avocat et je représente le nom de domaine, de marque, de plusieurs clients qui appartiennent à ma liste de clients. Et j'ai participé à la préparation de la candidature pour les IDN cyrilliques pour la Macédonie. Pas dans tout le processus, mais j'ai suivi ce processus de près. Je voudrais que vous nous disiez, est-ce que si vous avez des personnes ou des commentaires à faire ou une prise de position concernant les caractéristiques qui vont être incorporées par les managers des CCTLD, est-ce que cela s'applique pour ces IDN? C'est une question générale parce que je pense que le nom de domaine de deuxième niveau qui vont être enregistrés sous les IDN cyrilliques pourrait poser des problèmes dans le domaine de la propriété intellectuelle, dans le domaine de la protection hein, de la propriété intellectuelle. Nous n'avons rien de... Christina Rosette prend la parole. Nous n'avons rien qui avait été créé pour ce type de TLD. Je pense que les nouveaux GTLD qui se focalisent vraiment là-dessus, sur ce problème, sont les points SOC, les TLD points SOC, parce qu'un des trois candidats pour ce TLD a dit qu'il fallait qu'il paye $25,000 pour avoir le nom de domaine de deuxième niveau pour cette marque. C'est donc le TLD pour lequel nous avons dit en particulier qu'il y avait un problème ici, à cet endroit-là, il fallait l'arrêter. Donc. Mais plus largement, je dirais que l'IPC a pris une série de positions en termes du type des mécanismes de protection de droits qui allaient être requis, qui devaient être donc mis en œuvre. Et donc, ce que je pense, ce qui sera le mieux à faire, en tout cas, ce que ICANN propose pour le nouveau GTLD, comme minimum, et j'étais parmi les personnes qui ont participé à cela lorsque l'on a fait, au sein de l'équipe de recommandation et de mise en œuvre, hein, le Conseil a demandé à IPC d'organiser un groupe de 20 experts du monde entier pour donc analyser la question des nécessités pour la protection de marques. Donc on a dit, si vous considérez que l'IPC va considérer une meilleure pratique, on peut commencer un document dans ce sens. Et donc, si vous ne trouvez pas cela sur notre site internet, je pense qu'il y est, mais si vous ne le trouvez pas, on peut vous donner une copie. Un petit commentaire additionnel. Vous avez parlé de votre position pour les CCTLD. Vous avez parlé de ce document qui date de l'année 2000. C'est un vieux document, mais il y a une des caractéristiques qui doit être incorporée dans la gestion et l'opération de tous les CCTLD. L'un est des marques les plus connues. L'opération des CCTLD doit fournir des sauvegardes pour prévenir l'utilisation des noms de domaine de manière confuse, etc. Hein? Du point de vue de la propriété intellectuelle, est-ce que vous avez abandonné cette position? Christina Rosette reprend la parole. ICANN participe depuis 2006. Je ne savais pas que nous avions encore ce document en ligne et je pense qu'il est important de savoir que ce document, lorsque nous avons pris cette position, était en réponse à une demande spécifique. Un problème bien cadré, donc je ne peux pas dire. Je ne veux pas dire que donc 14 ans plus tard, c'est toujours la position de notre organisation, mais je dirais que la CCNSO et les donc responsables de donc extension géographique, s'ils disent qu'il faut continuer à dire cela, je le dirai aussi. Bien, les questions vont continuer à arriver, mais je dois vous remercier et vous remercier pour vos questions et vous dire qu'il faut les reporter. Nous aurons une discussion donc plus tard hein, et à l'extérieur de la salle. Envoyez vos questions à Christine, à son unité constitutive. Faites-les passer par Janice ou si vous la rencontrez dans les couloirs, elle sera ravie d'avoir une discussion avec vous en buvant un petit café. N'hésitez pas donc à la contacter. Voilà. Merci. On applaudit Christina et merci à tous pour être venus. Bien. Messieurs, dames, nous avons un problème de temps, mais Jorge va prendre une photo. Donc, je vais donner la parole à Jenny. Avant que tout le monde se lève, je vous rappelle qu'on va prendre une photo. Et ensuite, on va se retrouver dans le lobby pour aller donc ce soir au gala. Hein. Et rappelez-vous qu'à 5 heures, on a une réunion avec l'équipe SSR dans la salle 6. Et rappelez-vous, demain, on se retrouve à 7 heures demain matin. Ne soyez pas en retard. Merci beaucoup, Jenny. Nous allons prendre la photo maintenant. Donc d'abord, nous allons quitter cette salle qui doit être donc libéré à 9 heures précises pour la réunion du GAC. Donc, dépêchons-nous, Jorge. Nous allons prendre la photo. Jorge, où est-ce que vous voulez qu'on aille pour prendre la photo? Bien, nous sommes ici. Est-ce qu'on peut faire la photo ici? Bien, nous devons quitter la salle. Bien, messieurs, dames et chers amis boursiers, nous allons libérer la salle. Tout le monde me suit. Tout le monde suit Jenny. J'ai ici des brochures de l'unité constitutive de l'ISP, si ça vous intéresse. J'ai aussi ici ces documents, si ça vous intéresse, avec des drapeaux de différents pays. Venez les chercher.